Livre 4, chapitre 1er. Quelques éclaircissements. Les derniers mots du docteur Marchmont à son élève avaient été l'injonction d'être circonspect et des représentations sur la difficulté de se retirer avec honneur s'il avait une fois laissé paraître sa tendresse pour Camilla. Un autre motif encore engageait Edgar à suivre ce conseil, la crainte d'attirer sur Camilla l'attention publique comme elle s'était portée sur Indiana. Son admiration pour cette dernière n'avait jamais été que celle qu'on éprouve à la vue d'une belle peinture. Elle n'avait jamais été l'objet d'aucun soin particulier. Il n'en était pas de même pour Camilla. Quoiqu'il n'eût jamais déclaré formellement son affection pour elle, il ne pouvait pas douter que la vivacité de ses sentiments ne se fût trahie d'elle-même, soit dans une occasion, soit dans une autre, et cette idée lui causait quelques regrets, sans pourtant lui donner de remords. Voulant donc conserver la simple apparence d'un ami de la maison, il avait su s'abstenir pendant 2 jours de toute visite à Essarington. Il y retournait, lorsqu'arrêté par Lionel et conduit à Grove, il y trouva, non sans surprise ni sans déplaisir, Camilla. Tant qu'elle fut éloignée de lui, les suggestions continuelles de Miss Markland sur l'instabilité de son caractère, sur les bizarreries de son humeur capricieuse et les doutes même du docteur Marchmont furent présents à sa pensée. Mais quand il vit qu'en descendant au jardin, le major Sherwood s'emparait d'elle de nouveau, il résolut dans son indignation de tout arranger sans délai pour son voyage dans le continent. Cependant, il s'aperçut bientôt que, tournant la tête de tous côtés, elle le cherchait des yeux et paraissait importuner des assiduités du major. Il s'approcha dans ce moment. Camilla, profitant d'un moment favorable, quitta le major et rejoignit Mandelbert. Il aborda franchement la question et, sans autre préambule, la pria d'un air amical de lui donner quelque explication sur cette rencontre singulière. Camilla lui répondit avec la même franchise. Elle lui raconta toute l'histoire de sa première visite à Mistress Hartberry, la violence que leur avait faite Lionel pour les faire entrer à Grove malgré elle, enfin les circonstances qui avaient rendu cette seconde visite indispensable. Ces 2 mots, joints à l'empressement qu'elle avait montré de se justifier à ses yeux, lui rendirent en un moment tout son intérêt pour elle. Et quoique cet accident, qu'il regardait même comme un malheur, lui causât du chagrin, il avait trop à dire contre le danger de cette nouvelle liaison pour proposer à Camilla de la rompre à l'instant même. Il la remercia donc sincèrement d'une explication si prompte et si satisfaisante, en ajoutant avec beaucoup de douceur « Je connais, Miss, votre prédilection pour cette lady. Je ne vous dirai rien qui tende à la troubler. Mais comme cette connaissance est toute nouvelle pour vous, comme elle est également nouvelle pour toute votre famille et pour tous vos amis, dites-moi franchement, voulez-vous permettre qu'un ancien ami vous offre de temps en temps quelques avis et même vous importune quelquefois en vous ramenant à des réflexions sérieuses ?»« Si vous me donnez la réflexion, dit-elle gaiement, je vous promets du sérieux, mais je ne puis m'engager pour tous les deux à la fois. » « Oh, jamais, répondit-il, que jamais votre aimable vivacité ne soit tempérée que par votre propre prudence. Si je ne suis pas en ce moment exempt de quelque crainte, croyez qu'il n'y a de ma part ni austérité de caractère, ni insensibilité. » Il fut interrompu par Mac Dercé, qui, l'abordant brusquement, lui demanda sur-le-champ un moment d'entretien. Quoiqu'il fût cruellement contrarié par cette interruption, il ne put se dispenser de suivre Mac Dercé qui l'entraînait à l'écart. Et le galant major vint encore s'emparer de Camilla, qui, se sentant soulagée d'un poids énorme depuis qu'elle s'était justifiée aux yeux d'Edgar, charmée de la proposition qu'il avait faite de lui donner des conseils, fort aise aussi de voir qu'il ne s'opposait plus à sa liaison avec Mistress Hartberry, parut aux yeux du major plus charmante que jamais, écouta tant qu'il voulut ses compliments et ses protestations, sans y faire plus d'attention que de coutume. Mac Dercé n'avait pris Mandelbert en particulier que pour avoir de lui la vérité d'un fait, c'est-à-dire la rupture de son mariage avec Miss Lindmer. Mandelbert, surpris de la question, lui déclara sans hésiter que jamais il n'en avait été question et qu'il n'avait aucune prétention à la main de cette demoiselle. Mac Dercé s'était alors jeté à son cou en le remerciant, et tout le monde avait quitté Grove, comme on l'a vu dans la lettre précédente. Le lendemain, Edgar, aussitôt qu'il eut déjeuné, se rendit à Hetherington. Mais à peine avait-il eu le temps de saluer M. Tyrrell dans son étude et Lavinia dans la salle que Lionel arriva tout essoufflé. « Oh ! S'écria-t-il, Edgar, vous êtes ici ? Mais y pensez-vous ? Si ce grand chef-d'œuvre de nature, Miss Marglan, arrivait, vous n'en seriez pas quitte cette fois pour la peur. Je vous préviens qu'ils vous ont envoyé chercher à Beech Park. Je ne sais ce qu'ils veulent faire de vous, mais si vous désirez de sauver d'un désastre les yeux, ou tout au moins le chapeau de ma sœur Camilla, je vous conseille de vous rendre tout à l'heure à Clèves. » Edgar, étonné, lui demanda ce que cela signifiait. Mais Lionel assura qu'il avait pris tant de plaisir à voir la colère de Miss Margland qu'il ne s'était pas informé des particularités. Il savait seulement qu'il s'était fait dans toute la maison une grande commotion, qu'on avait déclaré Mandelbert amoureux d'une de ses sœurs ou de ses cousines, et que Miss Margland était furieuse que ce ne fût pas d'elle-même, qu'enfin, pour en avoir dit un seul mot par forme de conversation, Miss Margland l'avait tellement foudroyée d'un regard de ses beaux yeux que, pour éviter pis, il n'avait rien eu de plus pressé que de monter à cheval et de regagner Hetherington. S'il n'eût été question dans cette relation que de Miss Margland, Edgar ne s'en serait pas inquiété. Mais Camilla y était pour quelque chose. Après s'être assuré que le récit n'était point un badinage, il prit le parti de retourner à Beech Park sans voir Camilla, qui n'était point encore descendue. Il y trouva, en effet, une lettre de Sir Hugh qui le priait de se rendre à Clèves le plus tôt possible. Le jeune enseigne était la cause de tout cela. Aussitôt après la déclaration de Mandelbert, MacDercy, rempli d'espoir et de confiance, excité d'ailleurs par les conseils de Miss Rizalberry, résolut de faire ses propositions en forme. Il se présenta donc à Clèves, déclara tout d'un coup à Sir Hugh, avec sa turbulence accoutumée, qu'il était dévoué pour jamais à sa belle-nièce Miss Linmer et demanda la permission de lui faire la cour de temps en temps quand il ne serait pas de service. Étourdi de la volubilité de sa langue, Sir Hugh eut beaucoup de peine à l'entendre. Mais, attribuant à la violence de sa passion l'extravagance de ses phrases et ses brusques gesticulations, il lui répondit avec beaucoup de douceur qu'il ne doutait pas qu'il ne fût pour sa nièce un parti très sortable, quoiqu'il entendît aujourd'hui parler de lui pour la première fois, mais qu'il le priait de ne pas s'offenser s'il n'acceptait pas sa proposition, vu qu'il ne savait pas encore très bien positivement si sa nièce n'était pas engagée avec un jeune gentilhomme du voisinage. L'enseigne alors proclama hautement les nouvelles qu'il savait. Mandelbert avait déclaré qu'il n'avait aucune prétention et tout le monde était informé de ce désistement. Sir Hugh, toujours embarrassé lorsqu'il s'agissait de dire non, fit appeler sur le champ Miss Margland et la pria de conférer elle-même avec l'officier. Flattée de cette distinction, la première chose que lui demanda Miss Margland, ce fut de voir le tableau de ses revenus. MacDercy n'avait, quant à présent, dit-il, rien de ce genre à lui présenter, n'étant point en possession de son bien d'Irlande dont jouissait un cousin germain qui n'était pas encore mort. Miss Margland, en promettant qu'il aurait sous peu de jours une réponse, le congédia. Mais plus irritée que jamais contre Mandelbert par le contraste, elle revint à ses anciennes déclarations du tort qu'il avait fait à Miss Linmer et rejeta tout sur Camilla, qu'elle-même, disait-elle, avait surprise attirant Edgar dans ses filets la dernière fois qu'elle était allée à Hetherington et que, sans doute, on apprendrait bientôt devoir se marier avec lui. Sir Hugh croyait toujours littéralement tout ce qu'on lui disait. Ainsi, ses assertions, qui n'étaient que l'effet de l'humeur et de la colère, l'affectèrent profondément pour l'honneur et le bien-être de Camilla. Il envoya chercher Edgar, se proposant de le prier, s'il en était ainsi, de le déclarer ouvertement et de ne pas laisser tomber tout le blâme sur sa pauvre nièce. C'est alors que Lionel était survenu. En irritant Miss Margland, il avait augmenté l'embarras général. Lorsqu'Edgar arriva, Sir Hugh lui raconta l'affaire, l'assurant qu'il n'eût point trouvé mauvais qu'il eût préféré Camilla, ce qui lui paraissait très naturel, si seulement il avait bien voulu le faire dès le commencement. Quoiqu'Edgar aperçût au travers de tout ceci les mauvais offices de Miss Margland, il se trouva forcé de repousser l'une et l'autre accusation, sentant bien que, jusqu'au moment même de ses propositions, il ne devait montrer ni dessein ni préférence. Il parla donc des deux jeunes personnes avec le plus grand respect, mais répéta qu'il était encore incertain s'il ne prendrait pas le parti de voyager avant de former aucun établissement. Après une déclaration aussi formelle, il n'y avait plus rien à faire. Mais Miss Margland fut un peu plus douce lorsqu'elle sut que sa pupille n'avait pas le désagrément d'être supplantée. Indiana même, à qui Edgar n'avait jamais paru très aimable, l'oublia bientôt, toute heureuse de l'acquisition d'un nouvel amant. Dès le lendemain matin, la voiture de Sir Hugh arriva pour chercher Camilla. Elle se sentait si peu capable de passer un jour entier en présence de Miss Margland, après le récit alarmant et bizarre que Lionel lui avait fait, qu'elle pria celui-ci de l'accompagner et de faire en sorte qu'elle revînt avec lui. Lionel y consentit volontiers, mais il exigea qu'en revenant, elle allât avec lui voir une maison qu'il avait à visiter. Camilla fut reçue de Sir Hugh avec tendresse, d'Indiana avec indifférence et de Miss Margland avec un sourire malicieux. Mais bientôt, Eugénia, la prenant à part, lui découvrit qu'Edgar, le jour d'auparavant, avait ouvertement et publiquement déclaré qu'il n'avait jamais eu de vue sur Indiana, que même il était libre de tout autre attachement et qu'il n'avait d'autre désir que de voyager. La rougeur du plaisir, qui d'abord avait coloré les joues de Camilla, disparut pour faire place à la pâleur du chagrin et de la confusion. Eugénia s'aperçut bien de quelque altération, mais elle n'y comprit rien. Absorbée dès l'enfance dans l'étude des langues et de la littérature, sous la direction d'un maître qui n'avait jamais connu le monde, elle n'avait jamais donné d'occupation qu'à sa mémoire. Ainsi que son oncle, elle croyait les choses et les personnes exactement comme elles lui paraissaient. Et quoique, sous ce rapport, elle eût plus de tact pour discerner et plus de moyens pour apprécier les actions et les caractères, elle connaissait aussi peu que lui l'usage de ses facultés morales, à l'aide desquelles, approfondissant ses propres conceptions, on découvre les ressorts cachés, les mobiles divers et souvent opposés des actions de l'homme et de ses penchants. Lorsqu'elles eurent rejoint la compagnie, Miss Margland voulut elle-même raconter l'histoire. Non seulement, dit-elle, M. Mandelbert avait annoncé son indifférence absolue pour Miss Inmer, mais même il avait déclaré sa parfaite indifférence pour toutes les femmes en général et protesté qu'il ne s'embarrassait d'aucune. Elle ajouta « Je ne conseillerais à personne de se flatter de faire sa conquête, car, sur ma parole, il n'est pas facile à prendre. » Camilla ne répondit rien. Indiana, se mordant les lèvres, dit « Qu'assurément, elle ne se souciait point de cette conquête et qu'elle ne manquerait pas de prétendants. » Certainement, reprit Miss Margland, et l'arrivée de ce jeune officier qui s'est présenté prouve assez que, si vous n'avez pas reçu plus de propositions, c'est M. Mandelbert qui en est la cause. Ainsi, je ne parle pas pour vous, mais pour toute autre personne qui pourrait se flatter de plaire davantage à ce monsieur si difficile. » Camilla se sentit piquée au vif, mais elle garda le silence. Indiana, ne répondant que pour elle-même, dit « Oh, je peux bien assurer que cela ne m'épouvante pas beaucoup, et j'ose dire que si M. Melmond avait su… »« Non, ma chère, dit Miss Margland, il serait tout à fait au-dessous de vous d'y penser sans le connaître mieux. Quant à ce jeune officier, avant qu'on lui réponde, j'aurai soin de prendre des informations. » Il appartient à une très bonne famille, car il est parent de Lord Olerney, et j'ai en Irlande des amis qui peuvent m'instruire de sa fortune et de sa position. Nous avons tout le temps de vous pourvoir. Seulement, vu la conduite peu délicate de M. Mandelbert, j'espère que personne de la famille ne voudra prendre son parti. Cela serait très inutile à ceux qui le feraient avec des vues personnelles sur lui. Ce serait une peine perdue, je les en préviens. » Camilla, se voyant forcée de parler, rassembla tout son courage et dit « Quant à moi, il n'est pas nécessaire de me rappeler combien peu cela me regarde. Permettez-moi cependant d'observer que je me respecte assez pour ne pas former les projets dont vous me soupçonnez, quand même le sentiment des convenances ne me mettrait pas au-dessus d'une pareille humiliation. » « Bien, ma chère, vous avez raison, dit Miss Margland. Et j'espère que vous aurez le courage de lui faire voir que vous ne vous souciez pas plus de lui qu'il ne se soucie de vous. » « Je l'espère aussi, répondit-elle en pâlissant. Mais je ne suppose pas, je ne peux imaginer, il n'est pas très probable qu'il se soit exprimé bien ou mal sur le cas qu'il fait de moi. » Elle prononça ces mots avec beaucoup de peine, mais avec une très vive curiosité. « À cet égard, ma chère, il ne faut pas vous tromper, car on lui en a fait la question d'une manière très précise, afin que vous puissiez savoir à quoi vous en tenir et qu'un espoir mal fondé ne vous détournât pas de prendre d'autres engagements. » « On a fait là, » dit Camilla rougissant de colère, « une question très inutile et très déplacée. Je suis bien aise de voir que vous traitez la chose comme elle le mérite. J'aime que les jeunes personnes mettent de la dignité dans leur conduite. Et, je vous prie, a-t-il fait quelque réponse à cela ?» Il a répondu sans beaucoup de façon, je vous assure. Il a dit en propres termes qu'il ne pensait pas plus à vous qu'à votre cousine et qu'il était sur le point de partir pour voyager, ce qui lui plaisait beaucoup plus que de se marier, soit avec une de vous deux, soit avec une autre. Cette réponse fut un coup mortel pour Camilla. Sortant sur le champ, elle courut dans le jardin et se trouva loin de la maison avant de pouvoir respirer. Elle revint presque aussi vite, résolue secrètement à ne plus penser à lui. Elle n'eut pas néanmoins le courage de venir rejoindre Miss Margland. Elle fit appeler Lionel et le pria de presser le cocher. Lionel y consentit. Elle prit à la hâte congé de son oncle et, se contentant de dire aux autres « Adieu, adieu !» elle s'éloigna. Sir Hugh, toujours sans soupçon, crut qu'elle avait peur de retarder son frère. Mais Eugénia s'aperçut aisément que quelque chose n'allait pas bien, quoiqu'elle ne sût ce que c'était, et demanda la permission d'aller avec sa sœur à Essarington pour revenir aussitôt sans retenir les chevaux. Sir Hugh y consentit et les deux sœurs partirent avec Lionel.